BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
Et c'est parti pour la deuxième heure de TPI, tout pour investir. Alors évidemment, on aura un gros chapitre immobilier dans quelques instants avec Marie Cœur de Roi. On sera également avec Norbert Fanchon, le président du directoire du groupe Gambetta, qui sera avec nous. On va parler évidemment conjoncture du marché de l'immobilier. On parlera aussi bagnole, voiture avec Thomas Veillet d'investir.ch tout à l'heure. Et puis également un point sur les marchés émergents, un sujet qui nous préoccupe, sur les marchés boursiers. Que faire là en ce moment du côté des marchés émergents, du côté des marchés asiatiques, puis d'autres marchés? On sera pour en parler avec Frédéric Lorenzini dans Investir Autrement. Mais pour l'instant, on part directement sur les marchés boursiers. Avec Sabrina Sadghi, ça nous donne quoi sur les marchés en ce moment? Le CAC 40, toujours en légère progression, toujours au-dessus des 8100?
C'est indécis, hein, mais toujours au-dessus des 8100, ça on est bien d'accord. Le CAC, il tergiverse autour de son point d'équilibre, qui est à 8130 points. Pas de tendance claire pour l'instant, mais en tout cas, du côté du secteur auto, ça va plutôt fort, après une baisse la veille. Renault gagne 1,57% à 48,62 €. Et Stellantis 0,82 à 19,98, porté par les résultats de Nissan, qui a annoncé des résultats supérieurs aux attentes au titre de son exercice précédent. Et pour celui en cours, il prévoit un bénéfice d'exploitation, là aussi supérieur aux attentes. Du côté du pétrole, Total Energy gagne 1,10% à 67,97 €, porté par les cours pétroliers. On a par exemple le WTI, qui se rapproche des 80 $ à 79,64 $, en hausse de 0,80%. Nouveau record aussi pour Thales à 167,35 €. Donc l'indice parisien manque clairement de conviction aujourd'hui, mais rien de bien méchant avant de grands rendez-vous macroéconomiques, dont la décision de la Banque d'Angleterre, et ce sera tout à l'heure.
Alors Sabrina, on va parler foot ce matin. Donc victoire du Real Madrid sur le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions hier soir. On connaît désormais l'affiche de la finale. Ce sera Bayern Dortmund. Pourquoi on en parle dans Tout pour investir?
Ah bah oui, Tout pour investir, on parle de tout. On parle de voitures, d'immobilier, pourquoi pas de foot. Parce que Dortmund est coté en bourse. Plus précisément, c'est sa maison mère qui est cotée à la bourse de Francfort. Et sa qualification pour la finale dans Ligue des Champions mardi soir aux dépens du PSG a ravi ses supporters mais aussi ses actionnaires. Le titre de Borussia Dortmund a gagné quasiment 6% la veille après avoir touché un plus haut en séance de 6 mois. Déjà avant au match aller, il avait gagné 5% au match aller contre le club parisien et c'était le 1er mai. Et sur un mois, l'action gagne 20% avec son beau parcours dans les deux dernières phases de la compétition.
Bon, après c'est pas que pour faire joli, ces hausses boursières, c'est aussi parce que à chaque progression dans la compétition, il y a des grosses enveloppes pour les clubs.
Plutôt généreuses, effectivement, parce qu'une qualification dans les différentes phases de la compétition, ça fait des recettes pour le club. Je ne vais pas les détailler toutes pour des questions de timing, mais chaque club reçoit 10 millions, un peu plus de 10 millions pour les quarts de finale, une dotation qui se monte à 12,5 millions d'euros pour la demi-finale. Et pour la finale, Borussia et son futur adversaire recevront 15,5 millions d'euros. Une victoire en finale gonflerait également cette belle enveloppe de 4,5 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable à l'échelle du club. Selon son dernier rapport annuel, le Borussia Dortmund avait généré 440 millions d'euros de recettes sur l'ensemble de son exercice 2021-2022.
Et pourtant, ce n'est pas le plus grand vendeur de maillots non plus. Du côté de Manchester ou même du Bayern, on fait 10 fois mieux, mais effectivement.
C'est déjà pas mal.
Ouais, c'est déjà pas mal. Plusieurs groupes européens sont aussi cotés en bourse, notamment la Juve à Turin ou l'Ajax d'Amsterdam. Mais maintenant, investir dans un club, c'est quand même un pari d'averti, on va dire. C'est pas du pari sportif, mais faut pas avoir peur des gros mouvements.
Mais c'est surtout aussi réservé aux supporters les plus mordus, mais il faut être averti, effectivement, parce que les résultats d'un club sportif, très clairement, sont de nature aléatoire et pèsent grandement sur la viabilité économique d'un club de foot. Et l'activité, par exemple, d'un club sur son marché des transferts ou la blessure ou l'état de santé d'un joueur clé peut aussi influencer sur le parcours boursier d'un club. Et pour réduire cet aléa sportif, qui est quand même assez notable, certains certains clubs cotés, notamment au Danemark et en Turquie, ont diversifié leurs revenus en gérant d'autres activités, notamment dans la pierre. Hein. Par exemple, on a les clubs du Galatasaray hein, en Turquie qui investissent dans des actifs immobiliers ou le propriétaire de Parken Sport, hein, qui est le propriétaire du FC Copenhague, et ben lui, c'est plutôt dans les divertissements, dans les villages nature.
Et puis, on le rappelle, hein, OL Group, oui. Hein, la maison mère de l'Olympique Lyonnais, qui est cotée à la Bourse de Paris. Puis là aussi, c'est des actifs au sens large, avec le club de foot, mais aussi de l'immobilier, le stade, bien entendu, et puis des sociétés commerciales, etc. Mais merci beaucoup pour ce
merci
focus,
Antoine.
Sabrina. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard pour faire un point sur la Bourse, donc tendance indécise hein, à la Bourse de Paris, mais on reste largement au-delà des 8100 pour le CAC 40. Et puis, restez avec nous dans quelques instants, évidemment, votre grand rendez-vous immobilier, Marie-Cœur de Roy. En coulisses.
Tout pour investir. La place de l'IMO.
C'est l'heure de retrouver notre grand rendez-vous IMO du jour. Marie Cœur de Roy, notre spécialiste maison. Bonjour Marie.
Bonjour Antoine.
Toujours. Beaucoup de plaisir d'être avec vous. Et puis Norbert Fanchon, président du directoire du groupe Gambetta.
Merci. Bonjour Antoine, bonjour Marie.
Alors, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui?
Moi, j'avais besoin des lumières de Norbert pour qu'on parle de notre cher et tendre ministre du Logement qui nous a quand même présenté son projet de loi Logement Abordable. On va pas revenir sur la situation actuelle sur le marché de l'immobilier et du logement au sens large. Déjà, en ce qui vous concerne sur le neuf, est-ce que vous avez le sentiment, Norbert, qu'à l'intérieur de ce projet de loi, il y a des dispositions qui sont susceptibles d'aider le secteur ou pas? Et si oui, lesquelles, évidemment?
Alors j'ai commencé par répondre à la question que vous ne posez pas, Marie, c'est la situation de l'immobilier neuf au premier trimestre. Parce que ça me semble la pierre angulaire pour répondre à la deuxième question, à quoi sert le projet Casbarian. Premier trimestre, vous avez eu les chiffres de l'ancien il y a deux jours avec le président de l'AFNAIM. On est en gros sur les métropoles et le président de l'AFPI annoncera ça dans l'hebdomadaire.
La Fédération des promoteurs immobiliers.
Exactement. Pascal Boulanger, on est en gros à moins 50, moins 70%. Donc c'est un effondrement entre le premier trimestre 23 et le premier trimestre 24. Ouais, c'est des chiffres qui font peur. Et pour illustrer, parce que ça fait tellement peur, prenons une ville comme Montpellier. Montpellier, 300 000 habitants. Il y a 3 ans, on faisait 3 réservations par jour. Au premier trimestre 24, on fait une réservation, mais tous les 3 jours. Donc vous voyez, l'attrition du marché est très forte et on sort d'une année 2023. On était déjà à moins 45% par rapport à ce qu'on fait d'habitude.
Norbert, moi quand je vous entends donner ces chiffres-là, j'ai toujours la... C'est à cause de quoi? C'est quoi? C'est les gens qui veulent plus acheter, qui peuvent plus acheter. C'est la capacité à construire qui est réduite. C'est quoi le problème?
En fait, le chiffre un peu nouveau, et c'est en ça où je pense que l'erreur du ministre du Logement, l'erreur de diagnostic qui, quand il passe sur les plateaux, nous parle d'offres, il ne traite pas la demande. Et ça, c'est un peu notre problème. La vraie nouveauté de ce marché de début d'année, ce sont les retraits. Les retraits, c'est quand on lance commercialement une opération immobilière et qu'on la retire parce qu'on n'arrive pas à la vendre ou parce qu'on n'arrive pas à l'équilibrer économiquement.
Parce qu'on n'a pas suffisamment de pré-réservation, c'est ça ?
Parce qu'on n'a pas suffisamment de pré-réservation, parce que quand on fait le coût travaux, on voit que si on lance les travaux, on perd de l'argent. Donc on est un peu bête dans la promotion immobilière, mais pas de là à perdre de l'argent. Et donc, au premier trimestre, il y a autant de retraits que sur toute l'année 2023. Donc le vrai phénomène dont on est en train de se rendre compte, c'est qu'il y a beaucoup de logements en offre. On a tous beaucoup de permis de construire. On a dans le groupe Gambetta des centaines de permis de construire, mais qui n'ont pas d'équilibre économique aujourd'hui parce qu'effectivement la demande n'est pas au rendez-vous. La demande n'est pas au rendez-vous parce que il y a un vrai attentisme par rapport à la question que vous posez. Les taux sont en train de se stabiliser, mais la confiance dans l'immobilier n'est pas retournée. Et puis le deuxième sujet, c'est qu'on est sur des prix de revient qui n'ont pas vraiment bougé, les coûts de travaux n'ont pas encore baissé.
Pour l'équilibre financier, c'est quoi qui pose problème aujourd'hui? C'est le prix du foncier? Parce que si vous nous dites que vous avez des permis de construire, en veux-tu, en voilà, a priori, à un moment donné, on parlait de la frilosité des maires à accorder les permis, des plans locaux d'urbanisme qui étaient complètement farfelus ou qui étaient modifiés à la marge et n'importe comment. Là, en l'occurrence, vous nous dites, c'est plus les élus locaux qui pose problème, c'est quoi? C'est le prix du foncier? C'est le coût des travaux? C'est les matières premières? Qu'est-ce qui déséquilibre l'opération, en fait?
En fait, c'est l'accumulation de tout ça et l'accumulation du fait que la demande n'est pas aidée, n'est pas traitée. Et c'est bien ça, tout ce qui manque dans le projet du ministre Kasbarian. Et on reviendra sur aussi les côtés positifs. C'est le PTZ a été divisé par deux. Le prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété est passé de 1,2 milliard en budget à 600 millions. Le Pinel, donc tout ce qui aide les investisseurs privés à revenir sur le logement et à décompenser la fiscalité abusive du logement,
disparaît.
En fin de vie, et est beaucoup moins intéressant qu'il y a 2-3 ans. Il n'y a pas de perspective derrière. Et donc, c'est tout cet ensemble psychologique qui fait que les gens attendent. Attendent quoi ?
Baisse des prix.
Baisse des prix. J'ai vu aussi votre intervenant hier. Moi, j'y crois pas. Une baisse des prix quand on a une augmentation des salaires comme jamais on a eu depuis 3 ans. Une épargne, 95 milliards de surépargne. On a 4000 milliards en tout. Et depuis 3 ans, on a 100 milliards en plus. Et sans parler de l'inflation qui a rogné sur la hausse des prix, il n'y aura pas de baisse des prix. Il faut arrêter de croire à ça. Et donc, le vrai sujet, si on veut relancer l'immobilier, après on peut se poser la question à quoi c'est utile de relancer l'immobilier, ça sera d'aider la demande.
Oui, mais ça crée un effet. Enfin, je vais me faire de l'avocate du diable. Hein. Vous connaissez mes positions, Norbert, mais... Financer, subventionner comme ça pouvait être le cas, ça avait aussi un effet inflationniste sur les prix. Donc à un moment donné, c'est quoi la solution ? Vous nous dites qu'on n'a jamais eu autant d'augmentation de salaire et pour autant, les gens quand même ont perdu en capacité d'emprunt, ont perdu en capacité d'achat. Et les prix continuent à augmenter, en tout cas dans le neuf.
Alors les prix n'augmentent plus.
Il se stabilise.
Il se stabilise et je pense que quand Loïc Quentin parle de 5% de baisse de prix sur 2024, ça sera aussi vrai dans le neuf comme dans l'ancien.
Et ça serait lié à quoi ça, la baisse des prix dans le neuf du coup ?
On se réadapte forcément au marché. On va tous chercher une baisse des prix. Donc nous, dans le Gambetta, vous savez, Marie, qu'on porte beaucoup tout ce qui est TVA réduite,
ouais.
Tout ce qui est BRS, tout ce qui est accession à
la propriété. Bail réel solidaire, ouais.
Bail réel solidaire, donc qui permet d'avoir une TVA 5,5 à la place d'avoir 20%. Donc forcément, ça va faire avoir
tout se réaligner de manière générale parce que même sur des effets de court terme, on est bien obligé de se réaligner niveau prix.
Ça, c'est clair. C'est clair. Et puis, il faut faire revenir les clients. Il y a des offres promotionnelles chez beaucoup d'opérateurs.
C'est la foire fouille, là. On en parlait avec un spécialiste du logement neuf. Il me disait, on va sur tous les sites des promoteurs, type Kaufman, Nexity. Ils vous offrent la pièce en plus. Ils vous offrent la compensation de la disparition du Pinel. Les frais de notaire. Non, mais c'est un truc.
Ça, c'était en 1995. Ça pourrait revenir, mais Antoine,
je m'en souviens, c'était une histoire.
Mais ça veut dire quand même que malgré tout, il y avait... Encore une fois, je me fais l'avocate du diable, Norbert, mais ça veut dire qu'il y avait quand même de la marge suffisante pour les promoteurs pour baisser encore les prix ?
Non, la marge, on est en train de la retrouver sur la négociation, sur certains, sur le prix du terrain, et sur d'autres, sur le prix des travaux. En fait, la renégociation, elle se fait au cas par cas. Et si on revient sur le projet Kasbarian, le projet Kasbarian, il a trois grands domaines, dont un qui est effectivement de réconcilier les maires. Réconcilier les maires avec le logement. En fait, on est parti d'un principe ou d'un crime originel, si vous me passez l'expression, sur la suppression de la taxe d'habitation. Le Premier ministre nous a dit, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. La taxe d'habitation, c'était tu consommes, tu payes. Et en fait, en supprimant la taxe d'habitation, on a supprimé le lien entre la population locale et le fait que plus il y avait de logements, plus les communes étaient riches. Plus il y avait de logements, plus on pouvait avoir de services, plus on pouvait bénéficier de l'aide de la collectivité.
Mais elle n'est pas compensée, cette taxe d'habitation, Norbert ? On nous avait dit qu'elle était compensée.
Semi-compensée.
À l'euro près, même.
Voilà, 6 millis compensés. Mais donc, un des piliers de la loi Kasbarian, c'est de réconcilier les maires avec la construction neuve. Mais ce n'est pas d'aider financièrement les communes. C'est sur des sujets d'attribution, sur des sujets de prérogatives sur les fonciers. Et donc, un sujet, si on veut faire plus d'immobilier neuf, c'est que l'État investisse de l'argent. Quand Bruno Le Maire cherchait 20 milliards en début d'année, ils sont où ces 20 milliards ? Ils sont dans les 90 000 logements qu'on n'a pas construits l'année dernière. Quand vous faites 90 000 fois 250 000 euros, vous trouvez 20 milliards. Et on peut déjà lui dire que si le marché continue à baisser comme ça, on sera autour des 80 000 unités cette année et qu'il va lui manquer encore 10 milliards d'euros au début 2025. Et donc, le sujet global, c'est est-ce que l'État met de l'argent, investit, pour effectivement avoir le retour sur l'activité économique. Et dans cette loi Kasbarian, on a aussi des sujets très techniques, mais qui vont avoir des effets très long terme. C'est une loi, objectivement, solide, bien faite, portée par un ministre et son cabinet très dynamique, mais avec des effets très long terme par rapport à ce qu'on est en train de vivre au quotidien.
Par exemple, sur les recours, est-ce que c'était nécessaire aujourd'hui ? Est-ce que c'est pas juste de l'affichage ?
Non, moi je trouve que sur les recours, sur les lotissements, sur aider à la production de plus de logements intermédiaires, je trouve que ce sont des bonnes mesures. Et c'est en ça où le ministre et son cabinet ont écouté les professionnels.
Mais c'est pas à la marge ça. Est-ce que c'est à la hauteur de la crise que traverse le secteur? Je vous parle de ça, c'est pas une insulte, hein, mais moi ça fait que 10 ans que je traite ces sujets-là. Vous, ça fait un petit moment de plus quand même.
Le double.
Et Dieu sait que moi j'ai l'impression d'avoir parlé de la réduction des recours, de machin, de trucs. C'était depuis des années le fameux choc de l'offre qu'on nous promet cette année. On nous l'a promis en 2017 lors de la première élection d'Emmanuel Macron. À un moment donné, est-ce que vous pensez que les décisions politiques là sont à la hauteur des enjeux et de la crise que traverse le secteur?
Les décisions politiques, elles ne vont rien changer au marché. C'est-à-dire que
ça c'est dit.
Voilà, on était à 160 000 logements il y a 3 ans, on va tomber à 80 000 cette année à peu près, et c'est durable. S'il n'y a pas de relance de la demande, c'est durable sur les prochaines années. Est-ce que c'est grave? Oui. Est-ce que c'est mortel? Non. Donc c'est là où toute la question. C'est grave pour les finances de l'État, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il manque de la ressource économique à l'État et l'immobilier aurait pu la fournir. C'est grave pour le vivre ensemble, parce que si on fait moins de logements, on a plus de mal logement, on va avoir une explosion des loyers, du prix des loyers, on le voit déjà. Et Loïc Quentin en parlait très bien il y a 2 jours aussi. Moi, par contre, j'espère que tout ça va nous permettre une chose. Alors, très égoïstement, moi, ça me permet, quand je fais de la TVA réduite, comme on l'évoquait tout à l'heure, de bien vendre ces opérations-là. Bon. Et ça, je mets ça entre parenthèses parce que ça ne va pas sauver le marché non plus, mais ça fait de l'activité pour moi. C'est que le logement redevienne un sujet politique. C'est ce que vous évoquiez. En 2017, on a parlé du choc de la demande. Mais en fait, on n'a jamais parlé de politique dans les dernières présidentielles. Pas 2017, 2022, mais 2012 aussi. Et dans les dernières municipales, les maires bâtisseurs étaient des maires battus. Et peut-être qu'il faut vivre tout ça par une explosion du prix des loyers, par moins de logements neufs, plus de mal vivre. Ensemble, c'est pas forcément des choses très agréables à vivre, mais peut-être qu'il faut parler de ça, passer par ça, pour qu'enfin le logement redevienne un sujet politique.
Ouais, mais alors là, c'est quand même, Norbert, pardon, mais on parle d'un sujet de base. Vous le disiez, le logement, notre capacité à vivre dignement. Enfin, le mal logement n'a jamais atteint. Regardez les demandes. Vous parlez, alors vous bossez beaucoup sur le parc social. Là, typiquement, le projet de loi Kasbarian, il est quand même très très focalisé sur la loi SRU, sur la rotation dans le parc social, etc. Enfin, force est de constater qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de demandes de logement social, que à date, on a retiré de la trésorerie environ un milliard d'euros chaque année depuis 2018 aux bailleurs sociaux, et que maintenant on a un gouvernement qui s'étonne qu'il y ait moins de construction et moins de rénovation dans le parc social. À un moment donné, enfin, ok, c'est pas mortel pour vous, mais c'est mortel pour tout un tas de gens qui n'arrivent pas à se loger quand même. Ah oui. Donc on attend quoi en fait? On attend que les gens meurent sous les ponts en fait?
C'est en ça où je pense que c'est grave. Et c'est en ça où aujourd'hui on a face, et je pense que on peut mettre le ministre du Logement, face à nous on a un mur sur plus d'argent dans le logement. Et ça reprend exactement ce que vous disiez tout à l'heure, si on met de l'aide c'est inflationniste. Moi je crois pas, je crois que si on met de l'aide, c'est un investissement et ça permet de faire tourner la machine. Est-ce que vous trouvez normal que quand vous avez du capital, que vous avez un revenu du capital, vous soyez taxé à 30% et que dans l'immobilier, vous soyez au minimum à 55%? Est-ce que, comme le disait la sénatrice Estrosi Sassone, on ne dort pas, on ne vit pas dans un portefeuille d'actions? Alors moi je peux le dire autrement, on ne vit pas tous au Palais Brongniart. Donc est-ce que c'est normal que l'immobilier soit plus taxé que le capital? Moi je pense que non. Mais pour le moment, Bercy, le ministre des Finances, ne change pas de ligne. Plus d'argent et on taxe l'immobilier à mort. Et donc tant qu'on n'arrivera pas à cette semi-révolution que vous évoquez, à cette gravité, je trouve que le mot mortel est un peu dur, eh bien on n'arrivera pas à négocier avec Bercy, avec l'État, sur remettre de l'argent dans le système et arrêter effectivement d'être dans le mantra de l'offre. Non, aujourd'hui, il faut traiter la demande, aider la demande.
Mais ça ne suffit pas ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui. À un moment donné, on a pris aussi le prisme de l'emploi, de la mobilité liée au logement. On peut prendre aussi celui de l'éducation, des maltraitances. Enfin, il y a tellement de biais par lesquels on peut se rendre compte que du logement dépend tout, y compris l'économie et le plein emploi. À quel moment on serait réveille. Là, par exemple, vous parliez de l'équilibre budgétaire, du fait qu'on nous regarde parce que c'est des moindres recettes, pas forcément on a baissé les dépenses, et ah, bizarrement, ça fait baisser les recettes. C'était ce que disait Véronique Bédac, je crois, à une époque, qu'il fallait qu'ils sortent de leur fichier Excel. Est-ce que ça vous donne un argument, peut-être, à faire valoir auprès des pouvoirs publics, de dire, bah, vous voyez, en baissant les dépenses sur les mauvais secteurs, sur les mauvais investissements, et bah, vous réduisez aussi, en parallèle, drastiquement, vos recettes.
Et bien, ça vous paraît bizarre, mais aujourd'hui, non. Tout ça n'est pas suffisant. Quand Bruno Le Maire intervient et qu'il cherche les fameux 20 milliards, à aucun moment il dit l'immobilier aurait pu nous rapporter 20 milliards ou on s'est trompé, on aurait pu faire ça autrement. Quand Christophe Béchu est invité à la Fondation Abbé Pierre à la fin de l'année dernière, à aucun moment il y a un mea culpa sur la politique du mal logement. Et donc aujourd'hui, le logement n'est pas un sujet politique. C'est un peu surprenant. Et le ministre le transforme en sujet politique. Sa loi, qui est une loi, je le redis, plutôt technique, plutôt solide. Et en fait, on parle de quoi ? On parle de SRU et de HLM. Mais ce n'est pas le sujet principal de sa loi. Mais il transforme sa loi technique solide en sujet politique. Et ce n'est pas en traitant le HLM qu'on va rajouter de l'offre sur le marché. On est en train de parler de stock et de comment on gère le stock. Mais ce n'est pas ça le vrai sujet.
Alors que vous cherchez vraiment des dynamiques de développement plus que des décisions ponctuelles et des ajustements.
Je pense que c'est le vrai sujet. La dynamique de développement, elle répond à la création de richesses pour la société. Et en plus, elle sert le flux. On ne vit pas tous au même endroit. Et l'immobilier, en fait, c'est tout sauf immobile. On a besoin d'un logement à certains endroits, d'une certaine caractéristique. Quand on a 30, 40, 50 ans, ce n'est pas le même logement dont on a besoin. Et faire du logement neuf, ça permet de créer cette dynamique-là. Et c'est aujourd'hui, je le redis, malheureusement, malgré tout ce qu'on vit, malgré nous, ce qu'on dit professionnel, malgré vous, les journalistes qui alertez depuis 10 ans, voire plus, eh ben aujourd'hui, on n'est pas entendu. Bon, donc peut-être qu'il faut passer par un point bas pour être entendu.
Norbert, quand même un mot. Je sais que vous êtes amusé à republier sur les réseaux sociaux l'un de vos précédents passages où vous disiez que personne n'allait pleurer sur le sort des promoteurs. N'empêche, ça va comment ? Dans le milieu, pas seulement vous chez Gambetta, mais j'ai envie de dire l'ensemble des promoteurs, aujourd'hui, on en est où ? Des destructions d'emplois, des plans sociaux, on va où là ? Compte tenu des décisions qui ne sont pas prises et celles qui sont prises à la marge, à quoi on peut s'attendre pour ce secteur-là ?
Alors le secteur dans sa globalité, il y a la promotion, mais il y a aussi le bâtiment, forcément. Ouais. Et puis il y a tous les services liés autour de la promotion, les courtiers, les notaires, les architectes. Forcément, on est en train de réduire nos effectifs et de réduire nos investissements. Forcément, dans le bâtiment, la FFB parle d'une destruction de 150 000 emplois à horizon 2025. Moi, je pense que la FFB, avec cette destruction d'emplois, est inférieure à ce qui va se passer. Je vous le disais tout à l'heure, je ne vois pas un marché de l'immobilier neuf mieux que 80 000 logements à partir de cette année pour les années à venir. Donc, on sera plutôt sur une destruction d'emplois de 200 000 emplois sur le bâtiment. Pour tout ce qui concerne la promotion, on réduit tous nos effectifs, c'est comme ça. On a une visibilité qui s'est réduite. Avant, on avait 12 à 18 mois de visibilité. Là, on est à 3 ou 6 mois. Nous, on a fait plutôt un bon premier trimestre dans le groupe Gambetta sur les réservations. Par contre, on a un deuxième trimestre qui commence pas très bien. Et donc, on sait que dans l'ancien, c'est exactement l'inverse. Un premier trimestre pas très bon, mais un deuxième trimestre qui s'annonce mieux. On s'adapte, on se transforme. Mais vous savez, pendant des années, on était le monsieur plus. On nous demandait de faire moins. C'est-à-dire qu'on perdait sur chaque opération, sur chaque terrain, on perdait 30% de constructibilité. C'est quand même dingue quand on nous parle d'environnement et de ZAN. On faisait plus d'environnement, plus que la réglementation, qui est déjà l'une des plus exigeantes en Europe, voire dans le monde. On nous a demandé aussi de rajouter des logements sociaux, de faire de l'accession à la propriété. Et à chaque fois, on disait oui. À chaque fois, ça passait parce que les taux étaient bas, parce que les gens avaient envie d'acheter l'immobilier. Aujourd'hui, ça passe plus. Aujourd'hui, ça passe plus. Il va falloir que tout le monde revoie sa copie, que les aménageurs publics vendent moins cher leur terrain, qu'ils arrêtent la surenchère sur les normes environnementales. Il faudrait aussi qu'on arrête de mettre des boulets aux chaînes, c'est-à-dire de reporter la ZAN, la zéro artificialisation nette, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de maisons individuelles qui sont construites en France. Il faudrait qu'on reporte aussi la réglementation énergétique, qui va supprimer beaucoup de logements sur le marché de la location. En fait, il faut peut-être, je le redis Marie, passer par cette crise pour, comme on dit, changer de paradigme et remettre le logement au cœur de la politique.
Merci Marie Cœur de Roy, spécialiste immobilier maison à BFM Business, et Norbert Fanchon, président du directoire du groupe Gambetta. Merci. On a pu prendre le pouls du marché immobilier grâce à vous et du métier de promotion. Restez avec nous dans quelques instants. On va parler bagnole, on va parler voiture, on va parler voiture électrique même avec Thomas Veillé, chroniqueur boursier chez investir.ch. Et puis une petite surprise, vous allez voir tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On s'occupe de vos finances personnelles, on zoome sur certains secteurs. Dans les prochaines minutes, on va s'intéresser à l'électrique, à la voiture électrique. En bourse, qu'est-ce que ça donne? Et on fait ça avec deux experts que vous connaissez bien sur notre antenne. D'abord, Antoine Larigauderie, depuis Euronext, qui est branché une grande partie de la matinée avec nous. Rebonjour Antoine. D'aucuns ne savaient pas,
bonjour.
Mais vous êtes fan de voitures, en plus de votre expertise boursière incommensurable. Et donc, on va essayer de dérouler une vraie pensée avec votre équivalent suisse, Thomas Veillet, que nos auditeurs fidèles connaissent. Vous êtes souvent avec nous le lundi. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Thomas, vous êtes chroniqueur, rédacteur, auteur, youtubeur et puis surtout une des plumes du site investir.ch. Vous aussi, vous êtes très fort en bourse et vous êtes aussi passionné de voitures. Vous êtes le meilleur duo pour aborder ce sujet de l'électrique en bourse. Parce que oui, vous le savez, eh bien, la bourse suit et corrélée évidemment à ce que font, s'intéresse de près à ce que font les constructeurs automobiles. On va essayer de faire un tour d'horizon. On va parler des entreprises qu'il faut suivre, on va parler des performances des pure players en bourse, on va parler de la concurrence chinoise et on va aussi parler des performances peut-être des acteurs français. Stellantis, on va parler aussi un petit peu de Renault et aussi au niveau Europe, de Volkswagen, certains groupes qui finalement choisissent de ne pas rentrer en bourse. Qu'est-ce que ça dit de ce secteur et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ultimement, investisseurs particuliers? Antoine, si vous voulez bien, on va commencer par vous. J'aimerais que vous me disiez quelles sont les entreprises que vous surveillez de près en bourse. Quand on parle voiture, véhicule électrique et marché, de qui parle-t-on?
Alors évidemment, c'est difficile de passer à côté de Tesla. Attention, Tesla, c'est très particulier. Quand on achète Tesla, vous savez, c'est une structure financière assez baroque, finalement. On achète un bout d'Elon Musk et ça veut bien dire ce que ça veut dire. On achète un bout d'Elon Musk, effectivement. On achète aussi, d'une certaine manière, un petit bout de Twitter. On achète un petit bout de SpaceX. On achète un petit bout des actifs solaires et d'ingénierie électrique. Et on achète accessoirement un petit peu de Bitcoin. Donc, est-ce que Tesla est rigoureusement un pure player de la voiture électrique? On en est à se poser la question. Non, Tesla, voilà, on achète du Elon Musk, très clairement, quand on achète du Tesla. Mais enfin, ça reste, à l'heure actuelle, une forme de baromètre de l'automobile électrique et de sa santé. Les pure players du côté des États-Unis, on les connaît aussi, et le ménage commence à être fait. C'est vrai qu'on connaît Lucid, qui a à son tour de table aussi un gros morceau qui s'appelle l'Arabie Saoudite, via des sociétés d'investissement d'État. On a aussi Rivian, qui est un rival assez intéressant, parce que c'est le pick-up électrique, mais parallèlement, c'est aussi la fabrication d'engins de livraison électrique pour Amazon, donc très gros contrat. On a également VinFast, le constructeur vietnamien qui est venu ce côté du côté du Nasdaq. Il y a NIO, constructeur chinois qui est venu aussi ce côté du côté des États-Unis. Donc on regarde un peu tout ça en bourse, parce qu'il faut bien dire que côté européen, on a surtout des constructeurs généralistes qui font de l'électrique et qui ont bien du mal à le valoriser, ont bien du mal ne serait-ce qu'à le structurer, quitte à vouloir ensuite, après l'introduire en bourse, et c'est le cas de Renault, qui a mis au calendrier grec son projet d'introduction d'Ampère. Donc vous voyez, c'est un paysage assez disparate, fait de pure players. Mais alors, il ne faut pas avoir peur de perdre de l'argent quand on mise en bourse dessus, parce qu'ils ont un bilan boursier assez catastrophique sur les 52 dernières semaines. Ou alors, des constructeurs généralistes, finalement, qui ont ce mérite de financer la transition vers l'électrique par des ventes de voitures thermiques ou hybrides, bien sûr. Mais c'est ces constructeurs généralistes-là qui, peut-être, sont le plus à regarder du côté de l'investisseur particulier, à moins d'avoir vraiment une logique d'investisseur dans une start-up qui n'est pas prêt à perdre de l'argent dessus.
Thomas Veillet, comment vous complétez le tour d'horizon d'Antoine en termes d'acteurs à suivre et votre regard peut-être sur la dualité entre, d'une part, les pure players et les généralistes qui financent leurs innovations électriques grâce au thermique?
Oh, c'est difficile d'en rajouter, tout est dit. Je crois que tout est dit, le tour d'horizon est parfait. Donc j'ajouterais effectivement qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un monde atypique, puisque d'un côté, on a Tesla, où comme il l'a très bien dit, Tesla est une marque hybride, où finalement, c'est pas que Tesla, mais c'est ce qui représente le mieux la voiture électrique, et tout le reste sont ceux qui arrivent derrière. La grande question aujourd'hui, c'est que les gros acteurs électriques viennent surtout du côté de la Chine. Et ceux-ci, pour l'instant, ils ne sont pas forcément très, très intégrés dans nos régions aujourd'hui en Europe parce que problématique d'import-export. Et puis, il y a aussi toute cette confiance du côté est-ce que vraiment j'ai envie de rouler dans une voiture chinoise ? Ça reste encore très bloqué de ce côté-là. Mais après, le reste, c'est vrai qu'aujourd'hui, les performances sont catastrophiques, globalement. Même si Tesla vient de rebondir violemment après plus des espoirs que de la réalité vraiment en termes de performance, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si ce secteur... Enfin, moi, j'irais peut-être un peu plus loin en me disant, mais est-ce que réellement, la voiture électrique, c'est l'avenir? Parce que on voit aussi que depuis l'arrêt de certaines subventions dans certains pays, les gens sont moins friands de voitures électriques et se repositionnent un petit peu plus sur l'hybride qui a d'autres avantages que d'avoir uniquement une motorisation électrique. Et donc, il y a un peu un changement de paradigme qui est en train de se faire. Alors, la grande question, c'est quid de l'avenir? Et est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, on a envie de prendre un pari? Et je regardais un petit peu les différents concurrents. C'est clair qu'aujourd'hui, aller se positionner sur un Rivian, par exemple, ou un Lucid, il faut avoir beaucoup de courage. Parce que je ne sais pas si vous avez croisé beaucoup de Rivian ou de Lucid dans vos rues aujourd'hui, moi pas. Donc c'est aussi cette représentation où c'est quand même un marché qui est extrêmement confidentiel. Tesla, on voit bien qu'ils sont partout, mais c'est à peu près les seuls qu'on voit partout en voiture 100% électrique. Ou alors, effectivement, ces nouveaux constructeurs, enfin, ces constructeurs historiques qui ont tous créé leur division électrique avec des succès plus ou moins mitigés en fonction des différentes marques.
Antoine Larigauderie de Pure Next, vous le soulignez souvent, ce qui est fascinant avec Tesla, ou ce qui est en tout cas remarquable, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de modèles de voitures. Nous, on est à Paris. À Paris, on voit beaucoup, beaucoup de modèles 3, quelques modèles X, mais voilà, il n'y a pas plusieurs sous-modèles à l'intérieur de ces lettres, on va dire. Et ça, c'est quand même remarquable. Qu'est-ce que ça dit du futur de la marque? Et qu'est-ce que ça dit, en fait, on est sur un marché complètement homogène, notamment en France, où finalement la voiture électrique doit s'arrêter à la Tesla?
Ben, disons que c'était la stratégie de base d'Elon Musk, et en ça il avait pas tort, parce que le succès vraiment est incontestable, d'avoir une gamme resserrée autour de quelques modèles, une voiture moyenne, un SUV moyen, une grosse voiture, un SUV gros, et éventuellement à côté le Cybertruck, mais qui fait vraiment pas le figure comparé aux autres chiffres de Tesla, parce que c'est vraiment du flux. Le Cybertruck, ça tient vraiment de l'expérimentation. Maintenant, la stratégie, elle a été payante. Cela dit, Tesla, ils sont comme tout le monde, et Thomas Veillet l'a bien dit, il y a le plafond de verre, et ça fait des semaines qu'on en parle, ce plafond de verre d'adoption de l'électrique au sein de l'industrie automobile, au sein de la clientèle automobile, c'est-à-dire que les early adopters, ils ont fait leur marché. En plus, Tesla, ils ont une logique vraiment communautaire là-dessus, et qui a très très bien marché aussi. Simplement, on en arrive aux limites du taux de pénétration possible de l'électrique au sein de la clientèle automobiliste, parce que au-delà, ben, on en vient à des considérations de prix, de praticité, d'intérêt économique. Il y a des gens qui ont absolument pas besoin de véhicules électriques. On va pas les faire passer à l'électrique de force. Donc tous ces gens-là, ben, ils commencent véritablement à constituer un plafond de verre sur l'industrie de l'automobile électrique. Et une fois qu'on a le plafond de verre, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a guerre des prix. Et quand on a une gamme qui est aussi peu développée que celle de Tesla, alors c'est vrai que lors de la dernière présentation des résultats, Elon Musk a promis de nouveaux modèles, et en particulier a commencé par une petite citadine aux alentours des 20 000 $, qui sera la petite Tesla, dont on entend parler depuis 2-3 ans, hein, et qu'on ne voit pas venir. Il y avait aussi la sportive, le Roadster, qu'on attend toujours. Vous voyez, tout ça est assez diffus, et pour l'instant, on a surtout l'impression que Tesla bataille pour au moins conserver ses parts de marché sans trop rogner sur ses marges, ce qui est difficile, tout en essayant de conquérir un petit peu plus d'automobilistes. Mais ça, c'est un chantier encore plus difficile, je pense.
Il y a quelques mois, en début d'année, Elon Musk a parlé déjà de la concurrence chinoise, et ça refroidissait pas mal les investisseurs. Il disait, s'il n'y avait pas de barrière commerciale, les constructeurs chinois démoliraient toutes les autres entreprises du marché. Cette concurrence chinoise, elle est notamment incarnée par BYD. Comment on regarde BYD en bourse, Thomas Veillet? Et BYD, il me semble, dans laquelle Warren Buffett est investi.
est investi ou était investi. Je crois qu'il a réduit une partie de son exposition récemment. Mais effectivement, la concurrence chinoise est extrêmement présente, tout simplement parce que finalement, la réflexion d'Elon Musk aussi par rapport à la structure de Tesla, on l'a dit, avec très peu de modèles et finalement très peu de diversification au niveau des différentes voitures, va vers une espèce d'homogénéisation du système. Et finalement, les Chinois sont très compétents pour ça, pour venir avec des voitures très bon marché. Donc aujourd'hui, si vous avez plus d'intérêt, j'ai envie de dire, ludique ou passion, qui est quand même quelque chose très attaché à l'automobile, eh bien, vous allez vous acheter simplement une voiture qui va vous coûter 10 000 dollars chez BYD, parce que les modèles bon marché sont nettement bon marché que ce que Musk promet d'offrir ces prochains temps. Ce qui fait que finalement, c'est quelque chose qui risque d'être, si ça devait se produire, mais je ne vois pas non plus arriver dans cette direction, c'est quelque chose qui sera très très important à surveiller ces prochaines années. Mais bon, moi, quelque part, du côté passion automobile, je crois que c'est quelque chose qui est toujours assez symptomatique, c'est que l'automobile reste un truc qui est un truc de passionné. Les gens aiment la voiture, c'est comme ça. Et aujourd'hui, bon, moi, j'ai eu la chance, je suis aussi partiellement journaliste automobile, donc j'en ai testé pas mal, des électriques et des non électriques, et je peux vous dire que je reviens toujours à des moteurs normaux, des moteurs thermiques, à la limite de l'hybride, mais c'est vrai que le côté 100% électrique pose encore des problèmes de limitation de déplacement, tout simplement. On n'est pas encore 100% rassuré au niveau de la batterie. On sait tous qu'au niveau de l'autonomie, ça reste un stress permanent, où on ne sait jamais si on va arriver à domicile ou à destination. Et on a eu plusieurs exemples de tests qui ont été faits, où on se rend compte que pour l'instant, ce n'est pas encore 100% fiable. Alors, déjà, si on fait sauter les barrières tarifaires, c'est clair que toutes les marques européennes et américaines vont se faire vraiment détruire par les Chinois, ça c'est une quasi-certitude. Sauf le seul point que je mettrais en suspens, c'est comment est-ce que le consommateur occidental va lui passer volontairement à la voiture chinoise. Qu'est-ce qui va lui apporter, qu'est-ce qui lui donnera envie d'aller acheter cette voiture en dehors du prix. Aujourd'hui, on voit aussi, il y a aussi une question de recul, parce que les voitures électriques sont quelque chose de relativement récent, et on voit quand même qu'aujourd'hui, cette nouveauté pose des limites. Quand vous voyez les tests aussi, après 4-5 ans sur les Tesla, c'est catastrophique. Au niveau du vieillissement de la voiture, c'est pas non plus exceptionnel. Donc, il y a pas mal de questions qui vont se poser au fur et à mesure des années là-dessus. Et effectivement, l'arrivée des constructeurs chinois, on en parle beaucoup. Mais de nouveau, moi, j'en ai pas encore touché une, ni vu une physiquement.
Vous n'avez pas encore conduit la nouvelle Xiaomi SU7 ?
Non, je crois que même si on me la proposait, je pense que je serais en vacances à ce moment-là.
Bon, pas de commentaires. Je vous donne quelques chiffres quand même. Tesla a livré plus de 1,2 million d'exemplaires de son modèle Y en 2023. Ça fait de ce modèle le véhicule le plus vendu au monde. La Xiaomi SUV dont on vient de parler a été commercialisée il y a quelques semaines. Elle veut concurrencer plutôt la Model 3 de Tesla et la NIO ET5, si je ne dis pas de bêtises. Ça serait ça en équivalent de gamme. On est sur des voitures autour de 30 000 euros. Je voudrais finir cette séquence, messieurs. On parle d'automobile électrique et de bourse. Un mot peut-être, Antoine, pour vous. Renault et Volkswagen qui repensent leur entrée en bourse. Qu'est-ce que ça dit aux investisseurs particuliers qui nous écoutent et qui nous suivent ?
De l'impossibilité de valoriser très très clairement où va la voiture électrique en termes économiques. Et ça, Luca De Meo en a bien fait l'aveu en ajournant l'introduction en bourse d'Ampère. Volkswagen, c'est vrai que c'est sans doute le constructeur qui a le plus investi sur les 10 dernières années pour la transition vers l'électrique, mais lui aussi se retrouve face à ce fameux plafond de verre. En plus, c'est vrai qu'il y a toute cette histoire de concurrence chinoise. Après, il faut voir comment on la gère. C'est vrai que Stellantis, par exemple, a eu le nez creux. Vous savez, ils ont investi 5%. Ils ont investi pour acquérir 5% de Leap Motors, qui est un constructeur chinois qui fabrique la TO3. J'ai eu la chance de l'essayer, d'ailleurs, pour BFM Auto, qui est une petite voiture électrique citadine, sans trop de prétention, mais très efficace. Et puis surtout, qui a le mérite d'être pas cher et rentable à fabriquer. Parce que c'est aussi ça le problème des grands constructeurs européens, c'est à quoi bon fabriquer des voitures sur lesquelles on va perdre de l'argent. Donc là, ils ont pris 5% du capital de Leap Motors et obtenu l'autorisation de fabriquer la petite TO3 dans des usines en Italie. Alors bon, autant dire que ça a provoqué un tollé, mais finalement c'est peut-être la meilleure des solutions, c'est-à-dire au lieu d'avoir peur de la concurrence chinoise, de se dire mais ces gens-là vont nous détruire, Non, non, c'est de travailler avec eux pour le développement de certains véhicules dont on a besoin sur le marché. Parce que le but ultime, c'est quoi ? C'est de décarboner le parc automobile européen, qu'on le veuille ou non. Et ça, ça paraît être une bonne solution et un bon système de gestion. Maintenant, on le voit, c'est aussi le reflet des errements qu'on a à valoriser les activités électriques au sein des constructeurs généralistes. Ça aussi a trait au fameux plafond de verre commercial dont je vous parlais, mais aussi au changement réglementaire. Ça change tous les 4 ans, hein, quasiment toutes les mandatures présidentielles ou du côté des politiques européennes en termes d'incentives, en termes de réglementation. Donc tout ça est très très compliqué à valoriser et pour l'instant, les constructeurs, ils se replient sur le thermique et sur l'hybride. Parmi les derniers résultats que j'ai vus, quand même les plus prometteurs et les plus intéressants, c'est peut-être bien ceux de Ford, qui a quand même fait beaucoup mieux que le consensus et qui a signalé que justement, plutôt que d'aller à tête baissée vers l'électrique, ils ont bien vu que leur vente sur le Mustang Mach-E, c'était plus ça, hein, après 2 ans de commercialisation, ils font retomber soufflé et ils mettent les bouchées doubles sur l'hybride en se rendant compte que la transition sera sans doute beaucoup plus longue que prévu.
Voilà, les perspectives de l'automobile électrique avec, entre autres, Thomas Veillet d'investir.ch. Restez avec nous dans un instant. Investir autrement, on retrouve Frédéric Lorenzini, consultant chez Deep Darsana. On va parler des marchés émergents, des marchés frontières.
Tout pour investir sur BFM Business. Événement à l'occasion de Choose France, le rendez-vous de l'attractivité de la France, BFM Business met en place un dispositif exceptionnel en direct depuis le château de Versailles. Interview de grands patrons, discours du président de la République, débat et analyse. Journée spéciale Choose France, lundi à partir de 15h sur BFM Business. Tout pour investir, investir autrement.
Investir autrement avec nous, Frédéric Lorenzini, que vous avez l'habitude d'entendre à cette antenne, consultant chez Deep Darsana. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler alors des marchés frontières. On parle beaucoup des marchés émergents. Ouais.
En ce moment, il y a un petit phénomène de mode sur les marchés frontières. C'est vrai que c'est moins connu du grand public. Ouais. Les émergents, il y a les briques, etc. Il y a les grands émergents. Et puis derrière ces grands émergents, il y a ce qu'on appelle les marchés frontières. C'est un peu à la frange. C'est aussi ce qu'on appelle des marchés pré-émergents. Ils n'ont pas encore émergé, d'accord, mais on se dit qu'il y a du potentiel. C'est des marchés comme Maurice, l'Azerbaïdjan, l'Estonie, le Pakistan. Donc c'est vrai que pour le moment, c'est des marchés qui sont tout petits. Ça a comme caractéristique d'être des marchés étroits. Il n'y a pas beaucoup de valeur. Deuxième caractéristique, c'est des marchés qui ne sont pas profonds. Il n'y a pas un gros volume d'échanges. La profondeur de marché, on le sait bien, c'est important, que ce soit sur les valeurs cotées ou l'immobilier. Puis troisième caractéristique sur ces marchés frontières, on est souvent sur des juridictions plus ou moins bien régulées, plus ou moins transparentes. Sur les grands émergents, la Chine, le Brésil, l'Inde, on sait comment ça fonctionne.
Oui.
Il y a une certaine gouvernance qui, globalement, fonctionne. Sur les marchés frontières, c'est plus rock'n'roll parfois, hein, c'est un peu le Far West, donc c'est vraiment des marchés, on va dire, d'amateurs.
Ouais, d'amateurs éclairés,
quand même, plutôt. Hein. Bon, mais c'est vrai que depuis quelques temps, on en parle.
Mais comment ça se fait d'ailleurs qu'il y a cette espèce de mode entre...
Alors, c'est un petit phénomène de mode, hein, c'est pour initier quand même. Hein,
c'est vrai
pour
que
amateurs, c'est pour amateurs.
Marche beaucoup avec la mode.
Ouais, quand même. Pour une raison assez triviale, vous savez, quand on parle des choses, c'est souvent en matière de marché financier, parce que les performances sont séduisantes. Et là, Year to Date, depuis le début de l'année, on a une performance de 14% en moyenne pour les fonds qui investissent sur ces marchés frontières. Donc 14% year to date depuis le début de l'année et sur un an, sur 12 mois, c'est 30%.
Ouais.
Et donc, du coup, ça tire un peu la lumière sur ces marchés frontières. Alors,
mais la moyenne doit être difficile à faire parce que ça doit partir un peu dans
alors
tous
voilà.
les sens. Ouais.
Attention, c'est une moyenne et on le rappelle, derrière une moyenne, souvent se cachent de grandes disparités. Il ne faut pas foncer les...
Ouais.
Et puis on le redira, ça peut être attractif, mais c'est des marchés de niche.
D'accord. Il y a beaucoup de fonds qui sont consacrés
non,
à
ces
marchés frontières.
Voilà.
Non, pas beaucoup.
Il y a sur le marché français, il y a une petite dizaine de fonds spécialisés sur les marchés frontières. C'est moins que les marchés émergents qui ont en 20 ans conquis leur place. Il existe, alors ça c'est un point important Antoine qu'il faut souligner, il existe des fonds spécialisés sur certains de ces marchés frontières. D'accord. Ils sont monomarché, il y a des fonds spécialisés sur les actions turques, par exemple. Alors ça, c'est séduisant.
On raisonne par pays, là, vraiment.
Ouais, on est vraiment monopays, on est sur un pays. Les fonds actions turques, c'est plus 36% depuis le début de l'année, 57% sur 12 mois. Mais là encore, c'est beaucoup de volatilité.
Et puis, donc, le marché turc, c'est quand même...
Bah, oui,
le contexte macroéconomique et monétaire.
Action Vietnam, donc oui, c'est oui, séduisant. Oui. Attention, c'est pas une bonne idée d'aller sur un fonds monopays sur la thématique des frontières. Et vous allez me dire, oui, mais il y a bien des fonds Chine. Bah ouais, mais un fonds Chine, c'est un marché qui est déjà arrivé à maturité. Il y a beaucoup de valeur, il y a une grande profondeur, on sait comment ça fonctionne. Donc un fonds Chine, c'est pas la même chose qu'un fonds Vietnam.
Oui, et puis il y a un petit peu de tout en plus dans les marchés Chine. Il y a plein de catégories d'investissement.
Il y a plein de choses. Il y a une profondeur. Donc vraiment, grande prudence sur ces marchés frontières. Ouais. C'est un peu le Far West.
Alors, quels sont les fonds que vous regardez un petit peu
Alors, on va prendre des cas concrets. Moi, j'ai identifié deux cas qui me semblent très emblématiques de ce qu'on trouve. Il y a un fonds qui s'appelle le East Capital Global Frontier Markets. Moins d'une quarantaine de lignes. 40 lignes, c'est pas beaucoup. East Capital, c'est une société de gestion suédoise qui a été créée il y a de cela 15-20 ans par des Français pour investir sur l'Europe de l'Est. Et c'est vrai que ce fonds marché frontière de East Capital, il garde un peu ce tropisme Europe de l'Est, puisqu'on va trouver, quand on regarde les 10 premières lignes, Banca Transylvania, une banque, la Banque de Slovénie, une banque kazakh. Donc il y a un tropisme Europe de l'Est, mais il y a d'autres valeurs, hein, il y a d'autres régions. Côté performance, ça donne 16% depuis le début de l'année. Sur 12 mois, c'est 35%. Attention à la volatilité, on ne le répétera jamais assez, parce que là, on est sur des performances séduisantes. Souvent, c'est comme la moyenne, derrière une performance. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler les fripouilleurs d'actifs. Souvent, quand on vous annonce une performance, on donne une performance comme ça, sans vous dire qu'il y a de la volatilité. Oui. Vous voyez, ce fonds East Capital Frontier Markets, en 2021, c'est plus 28%. On se dit, ah bah c'est beau quand même, plus 28% en 2021, moins 15% en 2022.
Oui, tout à fait.
Et ça, c'est pas propre à ce fonds East Capital, c'est la classe d'actifs qui veut ça. On est sur des classes d'actifs assez étroites. Il y a de la volatilité. Puis un deuxième exemple, le Schroeder Frontier Markets. Là, on a un portefeuille qui est plus large, une soixantaine de lignes. On a une meilleure diversification géographique. On a des valeurs au Vietnam avec la Military Commercial Joint Stock Bank, en Égypte, en Slovénie. Mais ce qu'il y a d'intéressant sur ce fonds, on voit qu'il y a un fort tropisme sur les valeurs financières. Et en fait, c'est vrai de ce fonds et en général des fonds marchés émergents et des fonds marchés frontières. On va avoir des tropismes forts sur les valeurs financières qui sont des secteurs booming sur tous ces marchés.
Et puis il y a peut-être aussi pour des pays qui sont riches en matières premières énergétiques,
il peut y avoir
un tropisme de ce côté-là. Alors, sur le pétrole, sur le charbon.
C'est intéressant, on peut avoir des matières premières, beaucoup de financières. Souvent, il y a beaucoup de financières. Souvent, il y a des matières premières, quand le pays en a. Et puis, il va y avoir des secteurs qui sont structurellement sous-représentés. Le secteur de la santé, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'acteur local. Ouais. La consommation discrétionnaire, sous-représentée. Il faut avoir conscience qu'il y a un peu ce type de biais sur ces marchés. Donc, c'est pas pour tout le monde. On l'a vu, des performances attractives. Moi, je crois que ce sont des marchés de niche. Vous savez, si on prend le modèle un peu quand on construit son portefeuille, il y a classiquement, il y a le cœur et puis après, il y a le satellite.
Oui, le cœur satellite. Voilà,
un cœur satellite. Le cœur, c'est le gros des actifs. C'est des actions de la zone euro, c'est des actions américaines. Maintenant, dans le cœur, on peut mettre aussi des actions chinoises, parce que le poids économique de la Chine, et puis autour du cœur, hein, qui représente le gros de votre portefeuille, vous avez des petits satellites. Et typiquement, même si vous êtes séduit par ces... parce que les performances sont divisantes, si vous êtes séduit par ces marchés frontières, c'est du satellite, c'est marginal, c'est de la diversification.
Et justement, voilà, on en garde un petit bout quelque part.
C'est un petit bout quelque part. C'est de toute façon moins de 5%, nettement moins que 5% de votre portefeuille financier. C'est de la diversification, c'est pour voir.
Ouais. Merci Frédéric Lorenzini, consultant chez Deep Darsalam. Merci d'avoir été avec nous. Bah, avant de terminer, Amaury de Tonquédec, notre spécialiste crypto maison. Quoi de bon ? Ça fait un moment que je n'ai pas regardé, là, en plus, ce que faisait le Bitcoin. Est-ce qu'on reste au-dessus ?
Oh, là, on est plutôt stable, etc. Ouais. Là, on est plutôt stable.
Le marché s'est un petit peu ramolli, là.
On a été dans le rouge un peu avec le halving, mais ce qui est totalement normal. C'est possible que ça dure quelques semaines. Et justement, aujourd'hui, on va en profiter pour s'occuper de votre déclaration fiscale, les impôts 2024.
Pour tout savoir,
c'est tout à l'heure à 15h sur BFM Business. Vous me posez vos questions sur X ou LinkedIn et on y répondra. Voilà, on a un avocat et un journaliste qui sont mobilisés pour vous spécialement. Et il faut pas louper. Hein. Donc, tout sur la fiscalité crypto en 2024, ça se passe à 15h. Posez-moi vos questions, n'hésitez pas.
Oui, parce que c'est pas simple, c'est pas la truelle.
C'est pas simple, mais on va essayer de rendre ça sexy grâce à vous. Voilà, si vous avez des questions, on va essayer d'être le plus serviciel possible.
Je vais y penser, pas de soucis.
Merci beaucoup
Amaury. Je vous écris, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Amaury, merci à vous tous. On se retrouve demain pour une prochaine édition de Tout pour investir. Et dans un instant, vous retrouvez Sandra Gandois pour les meilleurs moments de BFM. À vous.
Tout pour investir sur BFM Business.